sommes jeudi 13 avril 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de Studio Kalungu au micro Nefis Adam Sirfo. Au sommaire, à Agadez, le comité de veille citoyen appelle les différentes communautés au respect de la cohésion sociale pour vivre pacifiquement dans le contexte d'insécurité. Ensuite, le collectif des associations pastorales du Niger Capane demande à l'État de mettre en place des dispositifs d'aliments bétail dans toutes les régions suite au déficit fourrager relevé cette année dans l'évaluation de la campagne pastorale. Le magazine de cette édition nous éclaire sur comment un pays contracte une dette pour couvrir certains besoins. Après l'attaque du convoi militaire qui escortait les orpailleurs de Tchibrakaten à Arlit, des communautés étrangères ont été indexées par certaines personnes. Hier à Arlit, la communauté tchadienne a rendu publique une déclaration de laquelle elle indique ne pas être liée à cette attaque. Un extrait de cette déclaration lu par Brahim Brima, secrétaire général de la colonie tchadienne à Arlit, sur des propos recueillis par Abdoulaye Moutari.
Suite à l'embuscade meurtrière tendue par des bandits sans foi ni loi au vaillant FDS du Niger sur l'axe Tchibrakaten-Arlit le 9 avril 2023, qui a coûté la vie à 5 soldats, le bureau exécutif présente ses sincères condoléances aux familles des disparus et à l'ensemble du peuple nigérien et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Apporte son soutien sans faille aux FDS et aux autorités nigériennes dans leur lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Demande aux autorités de rechercher, d'identifier, de poursuivre dans leur dernier retranchement et de neutraliser les complices et les auteurs de cet acte ignoble. La colonie tchadienne, éprise de paix et de justice, se démarque de toute forme de violence à l'égard du peuple frère nigérien. Pour tous les FDS tombés au champ d'honneur, qu'Allah les accueille dans son paradis éternel.
Nous restons toujours à Agadez où plusieurs informations tendant à la division et à la culture de la haine circulent notamment sur les réseaux sociaux en rapport à cette question d'insécurité qui est en lien avec les différentes attaques perpétrées dans certaines localités de la région. Toute chose qui ne concourt pas à l'unité nationale, une situation qui a suscité la réaction de la société civile. Écoutons Amou Mounagali, président du comité régional de veille citoyenne d'Agadez, au micro d'Anissi Karim.
Un coupable qui a fait une gaffe, il doit être tenu pour le seul responsable. On ne doit pas accuser une communauté, c'est une ethnie. Maintenant, si on veut chercher, par exemple, les criminels, tout le monde doit collaborer, doit apporter sa contribution pour vraiment la culture sociale soit quelque chose de garanti. Donc, nous demandons aux gens de faire attention, de faire la distinction des choses, de ne pas incriminer les gens pour rien du tout. Tout le monde doit se respecter pour vivre pacifiquement. Et la cohésion sociale dont on parle toujours, ça ne peut pas arriver tant qu'il n'y a pas de respect. Il ne faut pas jouer avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Qui balance n'importe quoi, à tort à travers, jusqu'à accuser certaines personnalités aujourd'hui qui sont dans un niveau de décision, mais on les accuse parce qu'on dit que c'est leur fils ou bien c'est leur neveu qui a fait ceci, qui a fait cela. Ça doit se limiter à celui qui a posé l'acte. Sinon, le reste, il faut les laisser en paix pour que qu'on crée les conditions de sérénité, en tout cas, entre nous, communauté, entre nous, ethnie. Il faut qu'on fasse attention parce que c'est ça qui va jeter l'huile dans le feu.
À Niamey, les éléments du service d'ordre des étudiants de l'université, communément appelés membres de la CASO, ont mené une descente musclée hier nuit aux alentours de l'université, ce qui leur a permis, selon le syndicat étudiant, de mettre la main sur les voleurs et autres bandits qui attaquent les étudiants et certains passants. Pour le secrétaire général de l'UNUN, Al-Mustapha Bakimbatouré, cette opération est nécessaire pour le bien des étudiants. Il l'explique au micro de Maman Ada.
Hier dans la nuit, les éléments de l'ordre qu'on appelle CASO ont fait une opération. Ils ont eu la chance de mettre la main au niveau du pont Kennedy sur un certain nombre d'agresseurs qui sont au nombre de 3. Ils les ont arrêtés. Après investigation, ils ont trouvé avec eux des téléphones portables, des cartes d'étudiants, des cartes d'identité et ils ont transmis ces agresseurs à la main de qui de droit. Alors s'il y a des étudiants qui sont agressés et qu'il y a de l'autre côté les franchises universitaires, ce sont nos éléments qui agissent pour un peu mettre de l'ordre. Et souvent, ils font des opérations à l'extérieur même du territoire universitaire quand des étudiants sont agressés. La dernière fois, c'était à Niamey 2000. Donc, c'est une collaboration, c'est un travail qui s'est fait. Certes, la police a ce travail, elle doit le faire. Nous les avons interpellés à plusieurs reprises pour qu'ils fassent leur travail. Mais nous, en tant qu'étudiants, nous apportons notre contribution. Les étudiants ont beaucoup apprécié cette opération parce qu'ils trouvent qu'il y a quand même des responsables qui sont là, qui sont en train de vouloir sécuriser à tout prix les étudiants.
Les retraités de la ville de Maradi sont montés au créneau ces derniers jours pour protester contre le retard accusé dans le paiement de leur pension. Le mardi, ils se sont constitués en comité pour rencontrer le gouverneur afin d'impulser une dynamique pour leur satisfaction. Pour Rabu Abou Zaidi, retraité et membre de ce comité, le traitement qu'ils subissent après avoir tout donné à l'État est injuste. Il est au micro de Mohamed Maman.
Fin mars, on a bouclé le trimestre normal et il n'y avait rien jusqu'à présent. Maintenant, on s'est dirigé vers le trésor. On nous a, dans un premier temps, repoussé pour nous dire qui nous a appelés. Alors, science et Nantes, nous avons constitué un comité restreint dont je fais partie. Nous étions rendus voir monsieur le gouverneur. Et l'objet donc de notre entretien avec le gouverneur, c'était pour lui faire savoir que vraiment en cette période de canicule, nous n'avons rien, on est des pères de famille et ça fait vraiment 4 mois qu'on n'a rien perçu. Et le gouverneur avait intimé sur le champ le trésorier pour qu'il puisse commencer avant-hier, après la rupture. Ça n'a pas été le cas jusqu'à hier. On vit au jour le jour. Or, nous avons servi ce pays dans la dignité et dans l'honneur. Et si c'est nous qui sommes en train d'être négligés maintenant, je dis qu'il n'y a pas de reconnaissance. Nous sommes au 22e jour du carême. Et jusqu'à présent, je vous jure, il y a certains qui n'arrivent pas à avoir de quoi rompre le jeûne.
À Dogondouchi, les personnes vivant avec des handicaps vivent en symbiose avec le reste de la population. L'association des personnes handicapées de la localité s'active dans la sensibilisation pour la scolarisation des enfants handicapés, l'intégration de la population et l'insertion professionnelle. Hachemou Massalachi, président de l'association des personnes handicapées de Dogondouchi, est au micro de Abdelaziz Dayoum.
Auparavant, on cachait l'handicap. Mais aujourd'hui, Dieu merci, nous sensibilisons la population. On ne fuit plus l'handicap. Quand nous invitons les gens, même ceux qui ne sont pas handicapés, répondent à notre appel. Et puis les relations entre les enfants handicapés et les autres sont très bonnes. Car les enfants normaux, chaque fois leurs enseignants les sensibilisent sur comment vivre avec des enfants en situation d'handicap. Ils attirent leur attention en leur disant que si vous n'êtes pas handicapé aujourd'hui, demain, vous pouvez l'être. Concernant les enfants handicapés ayant dépassé l'âge d'aller à l'école, un projet a pris 27 d'entre eux pour une phase pilote. Nous les avons amenés dans divers ateliers, comme la confection des chaises, la couture, la menuiserie, etc.
Pendant ce mois de Ramadan, le gaz butane est prisé par la population. Seulement à Ménessoroa, ce gaz fait défaut ces derniers temps, d'où ce cri de la population. On écoute quelques citoyens interrogés par Maman Idrissa.
Tout le monde utilise le gaz. Avec le Ramadan, on a abandonné le bois et voilà qu'il n'y a pas de gaz. Nos femmes souffrent. Après une journée de jeûne, vous espérez trouver du gaz. Vous envoyez jusqu'à Difa, mais vous ne trouvez, mais c'est pas possible. Nous avons appris qu'il a été mis en place un comité de plainte avec un numéro qu'il faut appeler en cas d'augmentation des prix. Mais il faut trouver du gaz d'abord.
Le manque du gaz domestique nous rend difficiles les tâches ménagères. Cela fait 2 mois que nous n'avons pas le gaz. Dans le mois béni du Ramadan, avec le gaz, nous préparons facilement notre souhour. Nous voulons que le gaz soit disponible pour que nous terminions le Ramadan en paix.
Notre fournisseur du quartier a passé 3 semaines en train d'attendre l'arrivée du gaz. Nous sommes obligés d'utiliser le voie du chauffe. Il y a un manque du gaz. Il faut voir à partir de 16h, les gens sont à la cuisine jusqu'à 18h. Certains même rompent à la cuisine.
L'actualité toujours en région, le préfet du département de Baleyara a procédé ce jeudi au lancement de l'opération vente des vivres à prix modéré. 50 tonnes composées de mil et sorgho seront vendues aux personnes vulnérables du département. Hussein Bondjere a lancé un appel à la population et aux membres du comité de vente à être responsables. On l'écoute au micro de Seydi Abdouvinditan.
Le département de Baleyara a reçu 50 tonnes de vivres pour la vente à prix modéré qui vient à Pornomé. Car nous sommes en plein mois de Ramadan, tel lequel les populations en ont vraiment besoin. Et ils en sont reconnaissants. Mais je précise que la vente se fait en détail, parce que ces vivres sont destinés aux démunis, qui n'ont pas les moyens de s'acheter un sac. La mesure coûte 325 francs CFA, donc accessible à toutes les bourses afin de subvenir aux premières nécessités. En tant que préfet, j'ai procédé à la mise en place du comité composé uniquement d'autochtones. Ils connaissent donc les nantis et les plus démunis et peuvent refuser de vendre à ceux qu'ils savent qu'ils sont nantis. L'appel que je lance au comité est de faire en sorte que ces vivres parviennent aux pauvres à qui ils sont destinés et à l'endroit des acheteurs d'être indulgents envers ceux qui ont moins de moyens qu'eux.
La période de soudure chez les éleveurs commence à partir du mois de mars au Niger. Elle peut s'étendre jusqu'au mois de juillet, une période pendant laquelle il est difficile d'avoir de matière sèche pour nourrir les animaux. Cette année, après l'évaluation de la campagne agricole, l'on a constaté un déficit de plus de 12 millions de tonnes de matière sèche, selon Mohamed Al-Moussour, secrétaire général du collectif des associations des éleveurs pasteurs Kapan. Il est au micro d'Alamine Ouachar.
L'évaluation de la campagne pastorale du Niger a relevé un besoin estimé à 34 146 759 000 tonnes de matière sèche. Au même moment, nous avons un déficit fourrager de 12 431 806 tonnes de matière sèche. C'est un déficit qu'il faille combler. C'est pourquoi nous menons ce plaidoyer régulièrement au pouvoir public pour que les dispositifs de mise en place d'aliments bétail à région et dans d'autres lesquels soient faits le plus tôt possible pour que les éleveurs pasteurs en tout cas puissent profiter. Vous savez qu'au-delà même de nos propres éleveurs, vous avez les éleveurs des autres pays qui sont là du fait de l'insécurité, que ce soit du Mali, du Niger ou autre, et qui ont un impact sur les ressources naturelles. C'est tous ces phénomènes conjugués, je pense que l'État et ses partenaires doivent venir en aide à ces éleveurs pasteurs à cette période effectivement pour qu'ils puissent la traverser sans problème le temps que l'hivernage s'installe.
À présent, le magazine de ce journal. Les pays en voie de développement qui n'arrivent pas à supporter les charges de leur fonctionnement ou la réalisation des projets font recours aux emprunts et engagements financiers qui vont constituer des dettes publiques. Cela pour supporter les dépenses et de fonctionnement de l'État et son développement. Le Niger s'endette souvent par ce processus. Mais comment un État contracte-t-il et rembourse-t-il ses dettes? Écoutons Dr Adam Louche Ibrahim, économiste. Il est interrogé par Ali Tach Sir Ahmed.
À l'instar de nombreux pays en développement, le Niger a régulièrement eu recours à la dette pour couvrir certains de ses besoins de financement. Et pour y parvenir, l'État se tourne régulièrement vers le marché régional IMOA titres, en l'occurrence, en émettant des titres de dette de différentes maturités ainsi qu'auprès de ses partenaires techniques et financiers traditionnels tels que la Banque mondiale. Ainsi, pour l'année 2023, le pays s'est fixé un plafond d'endettement de 1 260,70 milliards de francs CFA, un montant qui s'inscrit dans la stratégie nationale de maîtrise d'endettement qui a essentiellement pour objectif de pourvoir aux besoins de financement de l'État et de ses obligations de paiement futures au moindre coût possible à long terme tout en minimisant les risques liés à l'endettement.
L'État peut-il contracter des dettes pour des générations futures ?
La dette publique est régulièrement présentée dans le débat public comme un enjeu de justice entre générations actuelles et futures. Les premières tendraient à abuser et à léguer leur dette aux secondes. Ce discours, qui prend malheureusement souvent de relents moralisateurs, est néanmoins infondé, puisque l'essentiel des dettes contractées servent à construire des infrastructures de base, comme les routes, des écoles et des hôpitaux. Autrement dit, ce qui contribue à poser les jalons d'un développement économique et social harmonieux pour les générations futures.
Comment l'État rembourse-t-il ses dettes ?
En marge de la dette publique, la charge de la dette, qui est l'ensemble des dépenses de l'État consacrées au paiement des intérêts de sa dette, reste un élément important qu'il convient aussi de scruter. Et au Niger, la charge de la dette reste peu significative. Par exemple, pour l'année 2023, les paiements d'intérêts devraient s'établir à 443,87 milliards de francs CFA contre 424,46 milliards de francs CFA en 2022. Et pour mieux maîtriser donc cette charge de la dette, le Niger a réduit récemment son endettement intérieur à court terme, qui est notamment le plus coûteux en faveur d'un financement extérieur à long terme moins coûteux. Il devrait également poursuivre les réformes visant à améliorer la gestion de la dette publique tout en accordant la priorité au financement concessionnel pour les années à venir. Et à ce propos, le gouvernement envisage aussi de prendre des mesures afin de concilier la couverture du besoin de financement avec sa politique d'endettement prudent.
Ce journal est à présent terminé. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.